Décryptage, Anne Cantner.
Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de Décryptage. Nous parlons aujourd'hui de la Libye. Alors que les Nations Unies annoncent de nouvelles négociations et alors que le rapport de force sur le terrain a changé au détriment du maréchal Haftar. L'homme fort de l'Est ne l'est plus tant que ça, il est affaibli par une série de défaites subies ces dernières semaines. Est-ce que ses alliés russes et émiratis pourraient le lâcher pour autant ? Quelle suite pour l'opération turque de soutien au gouvernement de Tripoli ? Le conflit a-t-il complètement échappé aux Libyens pour se résumer à un affrontement entre Russes et Turcs ? Et enfin, faut-il encore attendre quelque chose de l'ONU, de l'Union européenne ou encore des États-Unis ? On en parle pendant les 20 prochaines minutes. Bienvenue ! Pour essayer de répondre à toutes ces questions, je reçois deux invités. Bonsoir Virginie Colombier.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse à l'Institut européen de Florence. Avec nous également pour parler de la guerre en Libye, Jalel Harchaoui, chercheur à l'Institut néerlandais des relations internationales à La Haye. Bonsoir. Jalel Harchaoui, est-ce que vous nous entendez ? On va essayer de vous rappeler pour que vous puissiez participer à cette conversation. En attendant, Virginie Colombier, on va peut-être commencer par évoquer la situation sur le terrain. Plus d'un an maintenant après le début de sa grande offensive vers Tripoli, le maréchal Haftar est bien loin en fait d'avoir pris le contrôle du pays comme il l'avait annoncé.
Oui, en effet. Maintenant, le conflit dure depuis le mois d'avril 2019, donc une offensive qui s'est étalée dans la durée. Et au contraire de ce qu'avait annoncé Haftar de manière assez triomphante le mois d'avril de l'année dernière, l'offensive n'a pas du tout été rapide et ses forces ne sont pas parvenues à prendre le contrôle de la capitale. Pendant une partie de l'année dernière, il n'y a pas eu une évolution considérable du rapport de force sur le terrain. Le conflit, en revanche, s'est rapidement internationalisé et les deux parties, en fait, à la fois les forces de Haftar et le gouvernement de Tripoli et ses alliés, sont parvenus à obtenir un soutien considérable du gouvernement de Tripoli, de la part des Turcs et de la part des Émiratis, des Égyptiens et des Russes du côté de Haftar. Et on a eu une accélération en fait de cette intervention extérieure au cours des derniers mois. Aujourd'hui, en revanche, en dépit du soutien extrêmement important qui a été apporté à Haftar par plusieurs de ses parrains extérieurs, il a subi une série de défaites et de revers très importants au cours des dernières semaines, durant les mois d'avril et mai, qui font qu'aujourd'hui il a été contraint de se retirer et donc il n'est plus, beaucoup moins en mesure en tout cas, d'intervenir violemment contre la ville de Tripoli comme il l'avait fait au cours des mois passés. Donc on a une situation de relative accalmie où la violence à Tripoli s'est un peu atténuée et surtout une situation où Haftar maintenant est en position de faiblesse relativement.
Oui, cette inversion du rapport de force, on la doit beaucoup à la Turquie qui s'est impliquée de plus en plus aux côtés du gouvernement de Tripoli. Jalel Harchaoui, on vous a retrouvé. Bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut néerlandais des relations internationales à La Haye. Le président turc ne l'avait pas caché, hein, il avait annoncé dès la fin du mois de décembre dernier qu'il allait intervenir. Est-ce que on ne l'a pas pris au sérieux à ce moment-là ou bien est-ce qu'on a mal estimé sa force de frappe selon vous ?
Je pense que les Américains ne l'ont pas sous-estimé. En revanche, la lecture française... Et je dois dire, c'est ce que j'avais remarqué dès le mois de décembre, très idéologisante, c'est-à-dire qu'il y a une tendance à, même si l'équipe au Quai d'Orsay actuelle et la présidence Macron, d'une manière générale, aiment bien se targuer d'appartenir à la tradition des réalistes, des réels politiqueurs, la première réaction de la France, c'est un exemple parmi d'autres, c'est de dire que le président Erdogan est un islamiste, ce qui est vrai, il est autoritaire avec une tendance à être de plus en plus autoritaire, ce qui est vrai aussi, mais la lecture qu'il fallait avoir, et certains l'ont eu à l'époque, c'est de dire peu importe l'idéologie, regardons la quantité de moyens. Est-ce qu'ils ont une industrie d'armement ? Est-ce qu'ils ont une capacité à produire des drones d'une manière autonome ? Chose que la France, par exemple, ne possède pas, ni la Grande-Bretagne. Une capacité de coordonner, de bien comprendre les Libyens, de les former, d'envoyer des systèmes de défense antiaérienne. Il y avait une lecture comme ça extrêmement technique qu'on pouvait mener dès le mois de décembre et qui permettait de conclure assez vite que c'était finalement le premier État depuis 2011, hein, je ne parle pas date de 2011. Depuis 2011, c'est le premier État-nation véritable à intervenir de manière pleine, ouverte, visible. Et en fait, la composante qu'on peut réduire à ces 7000 ou 8000 Syriens qui agissent en tant que mercenaires envoyés par la Turquie en Libye, c'est des mercenaires qui existent bel et bien, qui ont fait des choses répréhensibles en Syrie et ainsi de suite. Mais finalement, c'était qu'une partie de l'iceberg. Et il y a une composante qu'on peut apprécier sur le plan technique, militaire, de compétences, d'exécution. Je parle par exemple des 500 ou 600 officiers turcs qui jouent un rôle sur le terrain aujourd'hui dans la région de Tripoli. Eh bien, tout cela a fait que ça a été la première intervention bien exécutée d'un point de vue strictement technique.
Depuis 2011, et le résultat, c'est donc une série. Le résultat de ce que vous nous décrivez, c'est une série de revers militaires pour les troupes de Haftar et un coup dur pour son image aussi, Virginie Colombier.
Oui, très clairement, ça a un effet à la fois sur le plan interne domestique et sur le plan international. Depuis le début de ces opérations militaires, avant même l'opération contre Tripoli même, les parrains de Haftar, en particulier du côté russe, je pense, ne faisaient pas complètement confiance dans le personnage et dans sa capacité à rétablir, en tout cas dans la vision russe, la stabilité et l'ordre dans le pays. Ils avaient des doutes sur sa capacité à rétablir un contrôle total sur le territoire et surtout à reconstruire une certaine forme d'autorité. Le discours qui prévalait en revanche du côté russe, c'était de dire on n'a pas vraiment d'alternative. Aujourd'hui, je pense que l'incapacité de Haftar démontrée en dépit du soutien considérable, comme on le disait, qu'il a reçu de la part en particulier des Émirats arabes unis, dans une moindre mesure de la part des Russes et aussi des Égyptiens, il a montré qu'effectivement il n'est pas capable, qu'il n'a pas été en mesure de prendre la capitale, que un certain nombre de groupes très importants à Tripoli et dans l'Ouest ne se sont pas retournés pour rejoindre ses rangs, et donc ça a décrédibilisé encore plus son discours, et ça incite vraisemblablement, et c'est ce qu'on pourrait voir dans les prochaines semaines, certains parrains extérieurs, et je pense en particulier à la Russie, à essayer de trouver des alternatives à Haftar. Ça veut dire pas forcément abandonner la carte de la coalition de Haftar. Haftar n'est pas tout seul, il est allié à un certain nombre de groupes importants, à la fois de gens proches de l'ancien régime, des principales tribus de l'est de la Libye, également des forces salafistes.
Et est-ce qu'il bénéficie toujours d'un soutien loyal de la part de tous ces groupes que vous mentionniez à l'instant?
Alors justement, je parlais de l'impact extérieur, le fait qu'on pourrait commencer à lui chercher des alternatives, mais même sur le plan intérieur, en dépit du fait qu'il est difficile, en particulier dans l'est du pays, d'exprimer son mécontentement ou son opposition à la guerre, il devient de plus en plus clair que, en particulier parmi certaines des grandes tribus qui l'ont soutenu depuis le début de l'offensive, il commence à y avoir quelques tensions sur le fait que le prix à payer, et en particulier en termes de morts, des jeunes gens des différentes tribus qui ont payé en fait le prix de cette guerre, commence à peser lourd. Et en particulier aussi, au-delà de cette question dynamique tribale, disons, et de la grogne qui monte, il y a aussi une composante qui est très importante, qui a soutenu Haftar depuis son offensive. C'est une partie des forces qui ont été proches de l'ancien régime, ou en tout cas certaines composantes de l'ancien régime Kadhafi, qui se sont alliés à Haftar au début de son offensive, en pensant plus ou moins qu'il allait être le train qui leur permettait de revenir au pouvoir. Et également, on commence à voir des signes au sein de ces groupes-là, que peut-être ils commencent à se dégager et qu'ils sont tentés eux aussi de se positionner eux-mêmes pour prendre un rôle de premier plan. Et en ce sens-là, il est possible aussi que la Russie, qui a toujours maintenu de très bons contacts avec un certain nombre de groupes proches du régime Kadhafi, profite de cette opportunité-là pour peut-être insister un peu et faire valoir davantage ses relations qu'elle a eues avec des membres de l'ancien régime. Donc il y a effectivement un moment tournant, et Haftar, en tout cas en tant que personne, est vraisemblablement plus en difficulté, et sa coalition se trouve à un moment également tournant et à un moment vraisemblablement d'une certaine fragilité.
Et un moment plus difficile. Alors j'imagine que la Russie aurait assez facilement pu mobiliser plus de moyens pour soutenir l'offensive du maréchal Haftar. Pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas fait, Jalal al-Harchaoui?
parce qu'il y a un troisième géant en Libye, et qui d'ailleurs était presque seul il y a 14 ou 15 mois, c'est les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis sont un État qui dépense beaucoup d'argent et qui surtout bénéficie de réseaux diplomatiques qui en font des espèces de superstars dans les capitales occidentales, si bien que ni Washington, ni certainement pas Paris, n'allait les critiquer. Et c'est finalement les premiers à avoir commencé une intervention militaire clandestine dès le mois d'avril en 2019, sous la forme de frappes aériennes très fréquentes dans la zone de Tripoli. Ce phénomène émirati, les Russes savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas le contrôler. Donc aussi bien la structure libyenne de Haftar, et Virginie a très bien dit le scepticisme russe par rapport à cette entité qui n'a jamais été exactement ce qu'elle était censée être, mais surtout au niveau des dépenses, des injections logistiques, d'armes, même des décisions tactiques et stratégiques, tout cela était extrêmement poussé par une puissance qui s'appelle Abu Dhabi et que les Russes savaient bien qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Donc ce qu'on fait les Russes finalement, et vous avez tout à fait raison de dire que si la Russie était réellement et sérieusement intervenue, eh bien alors elle serait rentrée à Tripoli, bien sûr, elle est beaucoup plus puissante que ces États-là. Mais elle a décidé de ne pas le faire à cause du scepticisme vis-à-vis de Haftar et vis-à-vis de l'attitude émirati. Et donc on retrouve une espèce de cynisme russe très très malin qui a fait qu'ils ont laissé, si vous voulez, ces gens-là se casser les dents tout seuls et les voir revenir demander de l'aide. Et c'est ce processus-là qui fait qu'aujourd'hui, les Russes détiennent une influence politique absolument gigantesque pour pas grand-chose. Ça n'a pas coûté beaucoup d'argent à la Russie d'être arrivé là. Et c'est vrai qu'ils misent sur cette carte kadhafiste. Ils aimeraient bien, et c'est un processus qui a déjà commencé, réduire le pouvoir de la personne Khalifa Haftar et petit à petit arriver à un système où il n'y ait plus de diva, d'une personnalité trop forte qui décide les choses d'une manière trop imprévisible.
Et c'est effectivement bien engagé après les défaites qui ont été subies ces dernières semaines. À la suite de ces revers, les mercenaires russes qui se trouvent sur le sol libyen se sont repliés, mais ils se sont arrêtés à la frontière, enfin à la charnière entre ce que l'on appelle traditionnellement l'Est, la Cyrénaïque, et la région tripolitaine. Est-ce que selon vous, Virginie Colombier, c'est une manière d'indiquer une sorte de ligne rouge au gouvernement de Tripoli et surtout à ses alliés turcs ?
Il y a très clairement un positionnement russe qu'on voit là. Comme vous le dites, ils se sont retirés des principales lignes de front à Tripoli, mais ils sont pas très loin en fait. Les bases aériennes et la base de Joufra sur laquelle ils se sont également repliés n'est pas très lointaine. Il y a vraisemblablement l'idée d'éviter que les forces alliées au gouvernement de Tripoli aient l'idée ou l'intention, à un moment donné, boostée par leur relatif succès sur le terrain et aussi par le soutien turc, soit tenter de repousser et de pousser l'offensive plus en direction de l'Est. Et vraisemblablement, il pourrait y avoir des choses qui se passent du côté de Sirte dans les prochaines semaines, parce que la ville devient maintenant une sorte de symbole à reprendre. Donc c'est un message à l'égard des forces du gouvernement de Tripoli pour dire on est là et n'allez pas plus loin. Mais très clairement, on voit aussi se dessiner entre Turcs et Russes une sorte de dessein, d'une sorte de volonté d'avoir un peu des zones d'influence. Le gouvernement turc est en train progressivement d'asseoir un peu son contrôle sur la principale quasiment base militaire située dans l'ouest de la Libye, dont ils ont repris le contrôle avec les forces du gouvernement de Tripoli il y a quelques semaines. Et il semblerait que les Russes aient également des visées un peu similaires pour pouvoir se positionner et peut-être prendre le contrôle d'une autre base qui est légèrement à l'est de Tripoli.
Donc il y a des messages qui sont envoyés. Cette situation que nous décrit Virginie Colombier, est-ce qu'elle fait exister ou est-ce qu'elle fait peser un risque de partition de la Libye, selon vous, Jalal Archaoui?
D'abord, c'est très important de comprendre que la complicité, qu'il ne faut pas trop l'exagérer non plus, la complicité que Virginie a raison de souligner entre Moscou et Ankara, veut dire qu'il va y avoir un cordon ombilical qui va certainement, avec un peu de chance, rester, demeurer entre ces deux zones d'influence qui se dessinent. L'autre raison pour laquelle j'aurais tendance à apporter un bémol à cette idée de partition comme ça spectaculaire, drastique, qui serait binaire, nette et soudaine, c'est que justement les limites n'ont pas encore été dessinées. Et même ce que Virginie a dit par rapport à la limite ouest-est, je pourrais le dire aussi entre le nord-ouest et le sud-ouest, le Fezzan, une région très très importante et qui contient beaucoup de pétrole également. Et tout cela ne va pas être forcément résolu à travers une diplomatie tout à fait civilisée et calme. Il va y avoir encore des conflits plus ou moins petits ou grands, mais c'est ce qu'on retrouve un petit peu, c'est cette chorégraphie sale, brouillonne, mais qui existe néanmoins entre la Russie et la Turquie. On l'a vu en Syrie et on risque de voir un petit peu le même phénomène en Libye. Donc si la Turquie, par exemple, et ses alliés libyens de Tripoli commettent un certain nombre d'erreurs tactiques, vous pouvez parier sur un éventuel retour des mercenaires russes, par exemple, et qui aiderait l'armée de Haftar à faire un comeback. Donc voilà, c'est un petit... Donc se précipiter et dire qu'il y a une partition comme ça soudaine, je trouve que c'est un petit peu trop dichotomique, trop simpliste. Mais l'idée,
oui, d'autant
là,
plus qu'effectivement la Russie et la Turquie ont montré en Syrie qu'elles étaient capables de s'entendre dans certaines circonstances. Alors ces deux pays partagent un intérêt, un appétit commun pour des réserves de gaz de la Libye, entre autres. Alors j'entends bien qu'il y a des intérêts personnels pour l'un et pour l'autre, notamment donc pour la Turquie. Mais finalement, est-ce que la Turquie, elle n'est pas en train de faire en ce moment ce que la communauté internationale aurait dû faire, c'est-à-dire soutenir le gouvernement de Tripoli? Alors, bon, je dis communauté internationale, je ne sais pas si ça a vraiment du sens ici, mais du moins les Nations Unies qui ont reconnu ce gouvernement comme le gouvernement légitime, Jalal Archaoui.
Le thème que vous voulez dire est très important, en effet. C'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement des forums diplomatiques de tradition occidentale qui ont cessé de fonctionner au moment où l'offensive de Haftar a démarré en avril. C'était grâce à des acteurs comme la France qui veillaient à ce qu'aucun pays européen ne vienne condamner cette action en disant que ce serait par exemple une agression. Il y avait ce besoin de rester silencieux pour que l'ami émirati puisse pousser son poulain libyen et pouvoir mener à bien son offensive et gagner en quelques semaines. C'était un peu l'idée à l'époque. Et donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'un point de vue diplomatique? C'est-à-dire que tous les forums comme l'Union européenne, les Nations unies et ainsi de suite, et même les diverses capitales occidentales individuelles ont cessé de fonctionner. Ont cessé de fonctionner parce qu'il fallait être poli vis-à-vis du projet émirati. Et ça, les Turcs en ont pris note. Donc, effectivement, l'entrée en matière, cet engouffrement turc a été rendu possible par l'automutilation des diplomaties et des chancelleries occidentales. Ça, c'est un phénomène qu'il faut reconnaître.
Alors justement sur ce point, Virginie Colombier, il nous reste vraiment quelques secondes, donc je vais vous demander de répondre très rapidement, même si j'imagine que c'est pas très facile. Est-ce qu'on peut encore attendre quelque chose de ces autres acteurs, les Nations Unies ou l'Union Européenne par exemple?
L'Union Européenne, je pense, s'il faut vraiment être très bref, a pour une large part perdu sa crédibilité par le fait justement qu'ils ne sont jamais intervenus depuis avril, à part par des déclarations très très vagues et sans jamais vraiment prendre des positions claires. Du côté des Nations Unies, on voit, et ça a été la même chose en janvier, qu'ils essayent un peu de suivre le rythme qui est imposé par d'autres, en fait. C'est clairement aujourd'hui la Turquie et la Russie qui, en partie par leur action militaire, ont aussi donné le là et lancé des perspectives, en fait, de réduction de la violence et des modes de discussion qui échappent pour une large part aux Nations Unies, qui également, là aussi, ont pour une large part, et vis-à-vis des deux parties, je pense, en Libye, perdu pour une large part leur crédibilité, par leur incapacité à agir, à exercer des pressions, à réagir, et pas seulement parce qu'ils ne sont pas présents sur le terrain militaire.
Je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir participé à cette émission qui touche déjà à sa fin. Virginie Colombier, chercheuse à l'Institut européen de Florence, et Jalal Archaoui, chercheur à l'Institut des relations internationales Klingendel aux Pays-Bas. Merci aussi à toute l'équipe de décryptage, Fabrice Violet, Léonore Krenik, Gérard Perrault et Patrick Adam. À vous tous qui nous écoutez, vous le savez, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Twitter et réécouter toutes nos émissions sur l'application RFI Pure Radio. Je vous retrouve demain, même heure, pour un nouveau décryptage. Et d'ici là, je vous laisse avec Guillaume Nodin pour le débat du jour.